C'est un grand musulman du XIIe siècle, mieux, un pont vers l'Europe moderne.
Nous sommes au Moyen-Âge. Il faut partir de cette idée. Le Moyen-Âge est une période de la prééminence politique et culturelle et intellectuelle de la langue arabe et de la culture arabe. C'était les penseurs arabes, théologiens, philosophes, qui dominaient la scène intellectuelle pratiquement du 8e siècle jusqu'au 13e siècle. La date de mort de Ibn Rushd est 1198, c'est la fin du 12e siècle et c'est en même temps la fin d'une époque.
Non.
En arabe, Ibn Rushd, ça veut dire « fils de la droiture ». L'écrivain Salman Rushdie ne porte pas par hasard ce nom que, dans le monde latin, on transcrit en Averroès.
Date de naissance ?
1126. En Al-Andalus, le califat qui réunissait les domaines musulmans du sud de l'Espagne et ceux de l'Afrique du Nord, et qui passera quand Averroès aura atteint la vingtaine entre les mains de la dynastie des Almohades.
Sa carrière ?
Celle d'un fils d'excellente famille, formé à exercer les fonctions de médecin du calife et en matière de droit, celle de grand juge, celle de cadi à Cordoue et à Séville.
Son œuvre ?
Considérable. Celle d'un pionnier de la philosophie, commentateur infatigable du corpus d'Aristote qu'il révèle dans sa grandeur et auteur aussi d'ouvrages qui lui sont totalement propres. Ainsi, le discours décisif, le dévoilement des méthodes de démonstration des dogmes de la religion musulmane, car le philosophe se veut homme de la preuve.
Il connaîtra la disgrâce ?
Ce mot a-t-il un sens dans son cas ? Parce que son rôle tenait à son génie et non à la grâce du souverain. Enfin, il n'empêche, en 1195, celui-ci condamne ses œuvres et l'envoie en exil à Marrakech.
Sa mort ?
1198, en Afrique du Nord. Son effacement relatif dans le monde musulman sera surtout la conséquence de la chute rapide d'Al-Andalus dans les années qui suivirent sous les coups de la Reconquista.
Et sa postérité ?
Inestimable ! La circulation de son œuvre continue à bas bruit dans le monde arabe et en deux générations dans le monde latin, sa pensée submerge les universités au point d'être condamnée par les autorités catholiques à leur tour dans les années 1270. On le considère néanmoins comme un père spirituel de l'Europe.
France Inter. Intelligence, service, Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Et pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier ? Je vous écoute.
On a parlé de Moyen-Âge, je ne sais pas si c'est le mot qui convient le mieux pour les musulmans d'Espagne et d'Afrique du Nord, parce que pour eux, c'est un sommet dans le temps. Alors que la pensée grecque a été longtemps oubliée par l'Europe qui parle latin, elle revient par les musulmans grâce à l'arabe qui a alors valeur de langue universelle et Averroès, c'est celui qui opère ce transfert et par lui passe la philosophie rationnelle. Il est la figure arabe de la rationalité européenne à ses débuts quand elle ne se veut pas irreligieuse, la foi gardant alors son rôle de modalité première d'accès à la vérité. Et pour ce motif, l'un des grands spécialistes d'Averroès lui a en effet conférer le titre de père spirituel de l'Europe.
Et que connaissons-nous de la vie d'Averroès, monsieur Lebrun ?
On en sait trop peu, parce que des filtres déformants s'interposent entre lui et nous. Par exemple, au XVIe siècle, un maghrébin, passé de force à Rome, Léon l'Africain, a exagéré le récit des persécutions dont Averroès a fini par être victime. Au XVIIe siècle, porté par l'enthousiasme Pierre Bel, dans son dictionnaire philosophique, lui a inventé des qualités de médecin quasi miraculeuses. Et puis, il y a ce nom, Ibn Rushd, fils de la droiture. C'est un nom qui oblige, qui sonne encore aujourd'hui comme un principe, ainsi que le dit l'écrivain Salman Rushdie, qui, par héritage paternel, porte le même.
My father for reasons of his
own, père, pour ses propres raisons, a décidé de changer de nom. Quelque chose de plus court, peut-être plus moderne. Et il a choisi le nom de Rushdie en raison de son admiration pour le philosophe Ibn Rushd, Averroès. Je ne le savais pas dans mon enfance. Peut-être que je l'ai découvert quand j'étais déjà à l'université. À un point, mon père m'a raconté l'histoire. Et donc, ça m'a intéressé d'en savoir plus sur Ibn Rushd, Averroès. Et j'ai lu certains de ses commentaires sur Aristote et son livre avec le titre merveilleux, L'incohérence de l'incohérence. Et j'ai compris que c'est un philosophe très attirant. C'est un, quelqu'un qui était vraiment très très en avance dans l'Espagne de son siècle. Et beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, lorsque il y a eu ces problèmes autour des versets sataniques, je me souviens que Averroès aussi avait été persécuté, exilé, ses livres avaient été brûlés, etc.
Bon, alors on en sait assez peu quand même sur la biographie d'Averroès, mais on en dit peut-être un peu trop sur son pays, sur cette Al-Andalus, terre supposée de la bienveillance, de la tolérance, etc., etc. Enfin, quand c'est bien dit par un grand homme de théâtre, Pierre de Beauche, ça mérite d'être entendu tout de même.
Cette immense civilisation qui, du 8e au 14e siècle, de Bagdad à Cordoue, a irrigué toute l'Europe, s'agissait d'une coproduction, on peut dire, d'un triple portage arabe, juif et chrétien, où tout à coup, toutes les sciences venues de Chine, de l'Inde, de la Mésopotamie, de l'Égypte, de la Grèce ancienne, sont devenues familières au genre de cette époque. Et je comprends pas pourquoi on ne raconte pas ça à l'école, parce que c'est heureux, cette histoire-là, pour qu'on comprenne à quel point les peuples sont proches, à quel point ça les rapproche encore de savoir. C'était une civilisation incroyable. Le premier hôpital général était à Bagdad. Au 8e siècle.
Notre premier interlocuteur, bon, il sera volontiers démythificateur. Ce sera Jean-Baptiste Brenet. Il est professeur de philosophie arabe. Autant il y a des centaines d'experts de politique arabe sur nos plateaux, autant il y a peu de professeurs de philosophie arabe dans les universités françaises. Ils sont deux. Jean-Baptiste Brenet évoque le redressement qu'a provoqué en Al-Andalus l'arrivée des Almohades, la dynastie qui s'impose au milieu du XIIe, pendant la jeunesse d'Averroès.
À l'époque où Averroès intègre la cour, le pouvoir est relativement stable. À la fin d'ailleurs de son discours décisif, il salue un pouvoir vainqueur.
Le pouvoir des Almohades.
Il salue ce pouvoir vainqueur et qui distingue vraiment les Almohades des Almoravides, la dynastie antérieure que servaient son père et son grand-père, qui par contre était déchiré, faible, du point de vue politique et militaire, c'était un désastre.
Mais ce pouvoir almohade, il a la réputation d'être un peu rigoureux, surtout si on le compare au précédent.
Il présente divers aspects. C'est extrêmement curieux. D'un certain point de vue, il est rigide, extrêmement dur. Et puis d'un autre point de vue, et il suffit de dire de fait, il a été ultra favorable à la pratique de la philosophie. Si le prince n'avait pas été ouvert à la philosophie, on connaît tous l'anecdote, hein, le prince faisant venir Averroès et lui demandant de parler des cieux et de ce qu'Aristote en disait, Averroès réalisant que le prince était réellement intéressé. Donc il y a eu là une espèce de parenthèse enchantée dont l'œuvre d'Averroès a pu bénéficier. Donc du point de vue, il faut distinguer le point de vue dogmatique et l'ouverture philosophique, et donc Averroès a bénéficié de cette ouverture-là. Et on peut lire comme cela un certain nombre de ses textes, c'est-à-dire comme des tentatives de fournir au pouvoir politique qui le soutient une espèce de guide du pouvoir nouveau. Averroès a été de ce point de vue véritablement un intellectuel du pouvoir, et il l'a essayé, sentant qu'un espace là s'ouvrait, de produire une sorte de manuel politique, théologico-politique.
intellectuelle organique du pouvoir. Alors commençons par la formation. Elle n'a jamais cessé d'être bien assurée, dans les grandes familles du moins, en Al-Andalus. Le jeune Averroès a appris par cœur le Coran, l'édit du prophète, il a reçu un enseignement de poésie et de calligraphie, et ensuite acquis l'ensemble, alors connu, des sciences profanes, avec un accent mis sur la médecine et sur le droit. En 1160, il est cadi, juge de Séville. En 1180, grand cadi, grand juge de Cordoue. En 1182, médecin du calife. Les médecins les plus réputés à Cordoue pouvaient alors être les juifs et les chrétiens. La tête d'Al-Andalus, elle est parfois faite de plusieurs têtes.
Que signifie philosophe dans l'esprit d'Averroès, monsieur Lebrun ?
Dans le Coran, dans les dits du prophète, on rencontre plutôt les mots sage et sagesse. Ce sera l'affaire d'Averroès que d'introduire la notion de philosophie venue de la Grèce dans un milieu structuré par l'islam depuis le 7e siècle.
Nous sommes habitués, aussi par notre formation très française et le lycée, à l'idée du philosophe au sens grec comme de l'amoureux de la sagesse. Et donc, avec cette idée d'humilité qui paraît, attachée au terme même, que le savoir est une sorte d'idéal, d'objet d'amour, de visée, qu'au mieux on approche, mais qu'on n'acquiert jamais véritablement. Je dirais que pour les Arabes, la conception est complètement différente. Pour quelqu'un comme Averroès, le philosophe, oui, c'est le sage, et il utilise ce terme-là, ce qui d'ailleurs correspond à une certaine habileté, parce que le mot « sage » est un mot que n'importe quel arabe peut faire sien, peut comprendre, alors que le mot « philosophe », si vous me passez l'expression, ça sent le lexique grec, et donc c'est païen, et donc en contexte musulman c'est moins admissible. Donc si on dit le « faylasouf » plutôt que « hakim »,« hakim » c'est le sage, « faylasouf » c'est le philosophe, évidemment, on envoie un signal différent. La différence avec les Grecs, c'est que, pour Averroès, c'est le savant au sens absolument accompli du terme. C'est-à-dire que la science n'est pas un idéal, la science est une forme de savoir que l'on peut intégralement acquérir.
Une somme.
C'est une somme. C'est-à-dire que le philosophe, au sens plein du terme, qui est censé, le philosophe, c'est l'homme qui sait tout. Le philosophe, c'est l'homme de la preuve. Là où la foule se contente de la surface, de ce qui affleure, de ce qui est disséminé et qui paraît, le philosophe, lui, s'intéresse au noyau, au cœur du réel, premièrement. Et deuxièmement, il s'y intéresse en le saisissant et en exposant ce qu'il en saisit de façon démonstrative.
Dans la philosophie grecque, le modèle, c'est Aristote. La grande œuvre d'Averroès, c'est de commenter l'incomparable Aristote. Que 16 siècles séparent de lui.
Il y a une grande distance, il y a des grandes différences dont il a conscience, d'ailleurs, Averroès. C'est-à-dire, il sait très bien, il ne lit pas le grec, il sait très bien que les textes ont été traduits, et parfois pas directement du grec, mais du syriaque. Donc il connaît les intermédiaires, il connaît les accidents. C'est ce qui fait aussi, enfin, c'est une occasion pour lui de manifester son génie presque de philologue, parce qu'on le voit très conscient des lacunes, du besoin qu'il y a de suppléer, de compléter les manques, de faire des hypothèses. Donc il est très conscient du fait que son époque n'est pas celle d'Aristote. Donc Averroès a conscience de cela. Il reste que, pour l'essentiel, en dépit des variations d'époque, des variations géographiques, de toutes ces variations, de tous ces changements, en dépit de l'histoire, l'idée est que l'humanité a atteint, avec Aristote, ce qu'on a appelé l'âge de la démonstration.
Mais au XIIe siècle, qu'est-ce que c'est un commentateur dans le monde arabe? Réponse de notre deuxième interlocuteur, c'est Ali Ben Makhlouf, qui intervient, il est professeur de civilisation arabe en France, depuis son pays natal, le Maroc, Casablanca.
Le commentateur dit une parole qui n'a jamais été dite par définition, puisqu'il commente durant le Moyen-Âge, que ce soit pour les philosophes arabes, les philosophes juifs, les philosophes latins, suivre un philosophe, c'est la paraphrasis était tout sauf une paraphrase, c'est-à-dire s'arrêter sur des nœuds. Eh bien, il y a une perplexité philosophique dans les textes qui est dénouée par le commentaire. Donc le commentaire, dans la mesure où il dénoue une perplexité, où il apporte un apaisement quant aux questions qui sont restées nouées, eh bien, est créateur. Mais il n'est pas créateur au sens d'un arbitraire où il partirait d'Aristote et il construirait de lui-même sa propre philosophie. Quand on dit commentaire, aujourd'hui, là encore, c'est une expression qui nous semble n'être pas un exercice philosophique, alors que pour eux, c'était de l'artisanat où les concepts se construisaient selon l'adresse abrégée pour avoir des clartés de tout, comme dirait Molière, un commentaire moyen pour ceux qui veulent approfondir leur étude, et puis le grand commentaire pour véritablement ceux qui sont versés dans l'érudition.
Commentateur et créateur, en même temps, les philosophes, on le comprend, ce sont des hommes qui font l'effort de penser. Averroès recommande qu'on leur fasse une place digne de ce travail. S'il leur arrive de parvenir à la vérité, ils méritent double récompense. Et si leurs efforts échouent, il faut cependant les honorer. En même temps, il ne faut pas imaginer qu'ils deviennent jamais les plus nombreux. Tout homme ne peut accéder à la vérité par la philosophie. Le chemin habituel pour la masse, c'est la foi. Jean-Baptiste Brenet.
La grande thèse d'Averroès est qu'il n'y a pas qu'une voie d'accès à la vérité. Cela veut dire que la vérité peut s'appréhender, se dire, se transmettre de différentes façons. La religion est un mode d'accès et d'exposition et de propagation de la vérité. La raison, et disons plus précisément la raison démonstrative, la raison philosophique, est un autre de ces modes. Donc là où Averroès dit que l'homme est raison et que le philosophe est suprêmement raison, il ne dit pas qu'il n'y a d'homme que le philosophe. Il y a au sein de l'humanité, qui présente un certain nombre de traits communs pour tous, différents types d'hommes. Et même si tout homme en tant qu'homme est rationnel, tout homme n'accède pas démonstrativement à la vérité. Donc raison et vérité ne sont pas deux termes synonymes. Par la raison, on pourrait dire que j'accède à la vérité vraie, ou disons à la forme pure, la plus détaillée et la plus assurée de la vérité. Mais en tant que musulman, j'accède à la vérité. Et même, dit Averroès, et il ne faut pas l'oublier, en tant que chrétien. Et même en tant que juif. Toute religion est vraie, dit Averroès. toute religion est vraie, simplement vraie à des degrés divers. Et de ce point de vue, l'islam est la meilleure des religions parce qu'elle est la plus technique et celle qui permet à tout homme de s'y retrouver. Voilà.
Mais si on prenait une image, ça pourrait être celle d'un sommet de montagne avec des phases différentes,
absolument,
des cheminements différents.
Voie nord, voie sud. Le sommet de la montagne, c'est le vrai, et c'est la seule chose qui compte. Et c'est beau d'ailleurs, parce que c'est la seule chose qui compte, parce que c'est ce qui fait, c'est ce vers quoi l'homme se porte, et c'est ce qui fait l'unité des hommes. C'est censé constituer, c'est banal de dire, mais il ne faut jamais l'oublier, l'accord, donc la paix, et donc l'absence de violence. Donc le sommet de la montagne, c'est ça. Mais à cette montagne, on accède par une voie ou par une autre. Et d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a une hiérarchisation des voies. Bien sûr que la philosophie est en quelque sorte la meilleure des voies, au sens où elle fait voir ce qui est de la façon la plus détaillée qui soit et de la façon la plus assurée. Parce que le philosophe sait avec certitude que ce à quoi il accède est vrai. Donc il y a une forme de supériorité de la philosophie comme voie d'accès à la vérité. Mais compte tenu de la disparité des hommes, de la diversité des natures, cette supériorité-là n'a plus aucun sens, puisque la philosophie ne vaut pas pour quelqu'un qui n'en est pas capable. Donc compte tenu de la diversité des hommes, eh bien, tous les chemins se valent dès lors qu'ils permettent à l'homme de s'y retrouver. Le pire de l'homme, c'est son errance, c'est le flou dans l'existence. Donc toute forme de pensée qui lui donne d'accéder à la vérité est bonne.
Sauf que de mauvais guides peuvent se glisser dans ce monde ainsi bien disposé. L'important pour Averroès, c'est que la mince élite des philosophes et la masse des croyants fidèles, sincères, ne soient pas troublées par de faux raisonneurs qui accumuleraient prémices fausses sur prémices fausses. Ils les nomment tour à tour dialecticiens ou théologiens sectaires. On devine un peu qui ils seraient aujourd'hui.
Averroès distingue, c'est un peu un cliché de l'époque, un topos de l'époque, il distingue entre la foule à proprement parler, la masse, et les théologiens, qui pour lui sont des dialecticiens. Ce qui fait qu'il n'y a pas seulement deux groupes, mais trois groupes, deux faisant partie de la foule. Les théologiens se distinguent d'une certaine manière, ils sont intelligents, ils raisonnent, précisément ils dialectisent, ils disputent, ils produisent des syllogismes, ils ne cessent de le faire, mais ils raisonnent mal. Donc, au fond, le théologien raisonne, mais à partir de prémices probables, incertaines, et dans sa complexe série de déductions, il ne fait qu'ajouter des erreurs pour arriver à des choses loin du Coran, loin de l'islam, qui finalement perdent tout le monde, et pour cette raison sont extrêmement dangereuses. Ce qu'il faut, et c'est là que l'appui du pouvoir politique est fondamental, c'est interdire au maximum à cette théologie de se divulguer. Il faut mettre les théologiens en quelque sorte hors d'état de nuire, pas la religion. La religion, elle est cruciale. Sans l'islam, pas de société. Sans société, pas de philosophie. Donc l'islam est crucial. Mais la théologie, qui est un certain usage et de développement délirant de la religion, cette théologie-là, il faut que le pouvoir politique, et l'appel est clair, il est fait par Averroès, il faut que le pouvoir politique se charge de la contenir, cette théologie. Ça veut dire quoi très concrètement ? Ça veut dire, par exemple, interdire des livres, interdire la diffusion de certains livres.
Interdire les livres de ses adversaires théologiens sectaires ? Peut-être leur ôter la vie ? Oui, le combat qui, dans les années 1190, va s'engager à Cordoue, autour d'Averroès, c'est un combat à la vie et à la mort que restitue ainsi au cinéma Youssef Chahine. Averroès est en discussion avec ses ennemis.
L'homme ignorant et paresseux qui apprend par cœur de versets du Coran et qui s'en sert comme fonds de commerce en prétendant interpréter la parole divine, cet homme peut-il se dire pieux? La connaissance des textes exige des années de... d'efforts, d'études approfondies et bien sûr de recherches et de réflexions personnelles aussi. Alors comment peut-on suivre ceux qui prétendent avoir reçu le savoir et qui méprisent ce verset du Coran ? Au nom d'Allah le miséricordieux, tel homme ignorant se procure des discours futiles pour égarer les autres hors du chemin de Dieu et prendre celui-ci en dérision. Ceux-là subiront un châtiment ignominieux. Vraie est la parole du Tout-Puissant. Car nul n'a le droit de prétendre détenir la vérité ici-bas. Tenez encore, l'imam El-Shafei disait qu'une opinion, si vraie soit-elle, peut paraître erronée, alors qu'une opinion d'apparence erronée peut être vraie.
Mais le Coran est pourtant clair. Vous cherchez à nous faire douter de la révélation.
Tu sais sûrement ce que disait le prophète. Appliquez-vous. Si vous vous appliquez que vous atteignez la vérité, vous aurez deux parts. Si vous tombez dans l'erreur, vous aurez une part. Toute recherche mérite récompense. Dis, Seigneur, augmente ma science.
Quelle science ? D'abord la foi.
En 195, la tension monte. La puissance du souverain Al-Mansour est alors à son zénith. Non seulement il a contraint l'Espagne du Nord, l'Espagne chrétienne, à relâcher sa pression sur Al-Andalus, mais il a même pu reprendre Tolède, au moins pour un moment. Mais au cœur de son pouvoir, il supporte de plus en plus mal les débats religieux. Toujours le destin, le film de Youssef Chahine.
Quelle mesure avez-vous prise ? Toi, le grand juge Averroès, et toi, mon frère, gouverneur de Cordoue, et l'héritier du trône, mon fils. Mais ce pays va à la dérive.
On dit que...
Quoi ?
Le mal vient de ceux qui se servent de la religion. Tu ne fais rien pour les empêcher de nuire. Dans les mosquées, on ne voit plus qu'eux, et les fidèles n'écoutent plus que leurs prêches.
Sans doute aiment-ils plus leur éloquence que la tienne. Ce sont des hommes de foi.
Dis plutôt qu'ils en font commerce et qu'ils sont d'habiles manipulateurs. Dans le passé, ils se sont servis des victoires arabes pour accroître leur pouvoir. Aujourd'hui, ils parlent au nom de la religion et demain, ils trouveront autre chose pour servir leurs intérêts.
Ton fatras philosophique me fatigue. Notre pays est prospère et ne souffre de rien.
Il y a un vrai danger. L'Andalousie, comme n'importe quel pays, est menacée par ces fanatiques sans scrupules.
Ils deviennent puissants, c'est par milliers qu'ils endoctrinent les jeunes.
Tu crois qu'ils les ensorcellent ?
N'oublie pas, Altesse, que les habitants du royaume sont tous des enfants.
En réalité, l'affaire va mal se terminer pour Averroès, que le sultan va exiler à Marrakech.
Tu m'apportes une démission écrite comme un vulgaire fonctionnaire. Démissionne si tu veux. Et pars tranquille, personne ici-bas ne m'est indispensable. J'ai 10 juges capables d'assumer ce poste. Après tout, Averroès, c'est mon père qui te l'a donné. J'ai hérité de toi-même en même temps que du trône et tu étais déjà encombrant.
Puisque nous sommes d'accord, je me permets de me retirer.
Tu ne te permets rien du tout. N'était le peu de respect que j'ai encore pour toi, je te détruirai.
Détruis-moi alors, au lieu de te détruire.
Pour avoir sombré dans l'océan de l'illusion, pour avoir obscurci le jugement du peuple, notre calife a décidé de leur interdire d'enseigner dans les mosquées, de brûler leurs œuvres en place publique et de les bannir de l'Andalousie. Leur nom, Averroès, Abu Abbas Ibn Tubar.
Al-Mansour, dans les derniers mois de sa vie, comprendra-t-il que la disgrâce d'Averroès était injuste ? En tout cas, il songe à permettre le retour du philosophe, mais celui-ci meurt trop tôt, en 1198. Et c'est son cercueil qui rejoindra depuis la côte marocaine l'Espagne. Récit en image, le cercueil est porté par un âne d'Assia Djebar, l'écrivaine académicienne.
Le récit, c'est qu'au moment où on fait passer le corps d'Afrique en Europe, qu'il va donc pour passer du bateau pour arriver à Cordoue, on le place sur l'âne. Et pour qu'il soit en équilibre, on s'aperçoit que d'un côté, il y a le corps, et de l'autre, il y a toutes les œuvres, tous les livres d'Averroès. Et on les met en équilibre. Le corps est mis en équilibre par le poids des œuvres d'Averroès, de ses œuvres, qui après vont être perdues la plupart.
Mais on ne les a pas donc enterrées avec le corps.
Ça, c'est pour le transporter. C'était d'Afrique à l'Andalousie. Et à ce moment-là, il y a cette phrase sublime de Jabbar à Ibn Arabi, ou de Ibn Arabi à Jabbar, l'un dit à l'autre, d'un côté le maître, de l'autre l'œuvre.
Thank you.
Verhoès revient de plus en plus sur la scène publique, Monsieur Lebrun. Et en 1994, en particulier, avec la création des Rencontres d'Averroès, co-organisées par Radio France.
Alors, deux mots pour commencer, pour présenter ces Rencontres d'Averroès. De quoi s'agit-il ? Notre exigence fut de trouver une figure emblématique pour les trois cultures, musulmane, juive et chrétienne. Ibn Rushd, Averroès, l'Andalou, cette figure arabe de la rationalité européenne, nous est apparue comme un repère indispensable à notre temps où un mur d'incompréhension tend à s'élever entre les deux rives de la Méditerranée. Averroès incarne au contraire la profondeur du lien, la fertilité des confluences. C'est un homme pont, un cantara, entre les cultures dont nous avons tant besoin aujourd'hui, alors que des mouvements de rejet, de repli identitaire ne cessent de se renforcer. Averroès, cet homme de pensée et de raison, est un antidote à la peur. Il exprime la possibilité maintenue d'une ouverture face à la fermeture qui s'avance. C'est pourquoi nous avons décidé de placer l'ensemble de ces rencontres sous le signe d'Averroès et choisi de donner pour thème général à cette première édition l'héritage andalou.
Et aujourd'hui, Monsieur Lebrun, de quoi Averroès est-il le nom des deux côtés de la Méditerranée ?
Le nom d'Averroès signifierait aujourd'hui ouverture, un peu comme les deux lèvres d'une même bouche qui serait la Méditerranée. Mais revenons sur cette idée d'héritage andalou. À l'Andalous, c'est tombé peu après la mort d'Averroès et n'est resté jusqu'en 1492 que le petit royaume résiduel de Grenade. Mais ni la Reconquista en Espagne, ni l'esprit de croisade en général ne signifie indifférence à l'égard de l'islam. On n'est pas dans une guerre des ignorances religieuses l'une contre l'autre, comme aujourd'hui, mais dans une guerre de religion où l'épée compte, mais aussi la pensée. Eh bien, au début du XIIIe siècle, les traductions d'Averroès se sont multipliées à un rythme de plus en plus accéléré, à Tolède, en Catalogne, en France méridionale, puis en Italie, tout cela étant favorisé par la naissance des universités qui commence en 1200. Il faut que dans une émission sur Averroès, on entende au moins une fois son grand spécialiste et traducteur, Alain de Libera.
Averroès est aussi le père de l'université médiévale. C'est une formule qui peut étonner. Évidemment, il n'a pas fondé l'université médiévale, mais il est mort en 1198. L'université parisienne a été constituée en 1200, exactement. Et on peut dire que dès les années 1210-1220, les œuvres d'Averroès commençaient d'être traduites. En 1230, elles avaient entièrement submergé l'Université de Paris et elle devenait littéralement un texte au programme qui éclipsait, pour ainsi dire, Aristote. Le phénomène n'a cessé de croître et on peut dire que suivre les progrès de la philosophie en Occident, c'est suivre les créations progressives des universités, c'est suivre en même temps la diffusion de la pensée d'Averroès en Europe.
Mais le développement des universités porte en lui le risque d'une autonomisation de la philosophie. L'évêque de Paris en est conscient, il s'appelle Étienne Tompier. Il décide d'extraire le ver du fruit, si c'est pas trop tard, et par deux fois, en 1270, puis en 1277, il condamne d'innombrables propositions qu'il attribue à Averroès ou aux Averroïs. Averroès est ainsi accusé d'avoir émis l'idée qu'il pouvait y avoir deux vérités qui coexistent. L'accusation est infondée, il a seulement observé que les voies d'accès à la vérité pouvaient être différentes, celle des philosophes n'étant pas celle de la masse. Ali Ben Makhlouf.
Averroès aurait dit qu'il y aurait deux vérités, la vérité de la foi et la vérité de la philosophie. Averroès n'a jamais dit cela, c'est un contresens historique énorme, bon, qui a été beaucoup travaillé par beaucoup de gens. Donc non, Averroès ne cesse de dire que le vrai témoigne pour lui-même, la vérité est témoin d'elle-même, c'est un très joli concept d'ailleurs, que la vérité soit témoin d'elle-même, elle n'a presque pas besoin de nous, si je puis dire, pour être en cohérence avec elle-même. Mais Tempier, pour le condamner, avait dit « Si vous soutenez Averroès, vous êtes en contradiction avec la foi et deux vérités ne peuvent pas aller ensemble. Donc il y a la vérité de la foi et la philosophie, il faut absolument la condamner. » Vous savez, les soubresauts de Tempier vont jusqu'à la condamnation galiléenne, comme vous savez. Il a fallu attendre 1992 pour que l'Église s'excuse auprès de Galilée. Et pour moi, Copernic, Galilée, toute cette ligne est une ligne averroïste qui affirme pleinement le développement des sciences en toute autonomie de la théologie, mais en toute, comment dirais-je, sans conflit non plus. Vous savez que les filles de Galilée étaient bonnes sœurs, et donc voilà.
Parmi ceux qui discutent Averroès, il y a un nom à mettre en avant, l'auteur d'un contre Averroès, saint Thomas d'Aquin, le maître dominicain. De nombreux tableaux postérieurs montrent le triomphe de saint Thomas d'Aquin, qui enseigne du haut de sa chaire, pendant qu'à ses pieds, Averroès est réduit à une position soumise. Mais ce que pratique Thomas avec Averroès, c'est la disputatio, pas l'humiliation. Une idée d'Averroès a heurté particulièrement Thomas. Averroès suppose un intellect qui serait commun à tous les hommes, le réceptacle d'un savoir total, non lié à un organe. Et dans cette hypothèse d'un intellect comme dépersonnalisé, c'est ce que reproche saint Thomas d'Aquin. Qu'est-ce qui va rester d'une des originalités du catholicisme, où chacun de nous trouve la liberté de poser des actes dont il porte ensuite la responsabilité? Nous ne sommes pas, répètent les catholiques, livrés à une fatalité qui ne dépendrait aucunement de nous.
Averroès, quand il a lutté contre les fatalistes, le fatum maometanum dont on nous rebat les oreilles que les musulmans sont fatalistes, eh bien, il dit, ils vont chercher dans le Coran des passages qui disent qu'on est complètement entre les mains de Dieu et ils pensent que, ma foi, l'homme n'est pas responsable. Mais par moment, le Coran dit bien que l'homme est pleinement responsable et que il y a le jugement dernier et que etc. Mais alors où est la vérité, puisque on trouve les deux dans le texte? Il dit ben précisément la vérité, c'est que il y a des actions qui dépendent de nous, il y a des actions qui ne dépendent pas de nous. On dirait les causes extérieures, mais on dirait la providence. Descartes ne dira pas autre chose en parlant de la providence pour toutes les actions qui ne dépendent pas de nous. Et déjà, Averroès avait bien fait cette distinction dans le dévoilement des preuves de la religion, un livre qui lui aussi n'est pas un commentaire d'Aristote, où il dit ben, l'action humaine, elle est partie de notre responsabilité, partie dépendante de choses qui ne sont pas du tout de notre ressort. Donc, si vous voulez, la thématique de la responsabilité est présente. Et quand il commente Aristote, quelque chose de bien connu des philosophes, à savoir les futurs contingents, demain, y aura-t-il une bataille, y aura-t-il pas bataille, les talibans laisseront-ils quelques avions réatterrir pour permettre à ceux qui désirent de partir, de partir, etc. Et pour toutes les propositions portant sur le futur, on ne peut pas dire que tout est inscrit d'emblée. Il y a une incertitude de notre connaissance, il y a une incertitude dans le cœur des choses. L'exemple que prenait Aristote, magnifique, que reprend Averroès, votre habit sera-t-il usé avant d'être déchiré ou sera-t-il déchiré avant d'être usé? Vous n'en savez rien aujourd'hui. Eh bien, cette incertitude fait que, précisément, on ne peut pas dire que tout est inscrit de toujours. Et en même temps, il est inimaginable de penser que depuis que l'humanité existe, il n'y ait pas eu des choses que les hommes ont fait en propre. Jusqu'où va la providence divine et quelle est la part de la responsabilité humaine ?
Et du côté de la pensée arabe, Averroès a-t-il également laissé une empreinte, Monsieur Lebrun ?
Ah ben, on a longtemps insisté sur le fait que la circulation de son œuvre après sa mort s'est trouvée comme interrompue par la chute d'Al-Andalus. C'est exact, mais en même temps, les manuscrits d'Averroès ont davantage circulé dans le monde arabe qu'on ne l'a cru longtemps. Les manuscrits du monde latin, ils sont à peu près tous connus, mais pas tous ceux qui ont pu cheminer dans le monde arabe, par exemple jusqu'en Afrique ou au Yémen. L'idée dominante qu'a imposée en France dès le Second Empire le philosophe des religions Ernest Renan consiste aussi à affirmer que l'histoire de la pensée arabe serait définitivement close. Mais ce n'est pas parce que la langue arabe a en effet perdu son universalité que la pensée qu'elle porte est éteinte. Sauf à décider, comme Renan en effet, que la tête de tous les musulmans est entourée d'un cercle de fer qu'il est impossible de briser. Il est tout de même inimaginable que les sociétés musulmanes ne puissent un jour rouvrir les portes de l'interprétation et qu'on puisse de nouveau poser la question d'Averroès, comment philosopher en islam ? Ali Ben Makhlouf insiste sur l'un des débats qu'il a laissé pendant et qui s'avère urgent. Non pas le débat raison-foi, mais le débat intellect-loi. Ne faudrait-il pas cesser de répéter que la loi, la charia, serait un bloc immobile ? Alors, dit Ben Makhlouf, quelle est une voie tracée pour traverser les siècles qui la modèle chacun à son tour ?
Vous savez, à chaque fois que j'entends, et ça a été redit tout le temps avec l'arrivée des talibans, ils vont appliquer la charia. Le mot est devenu frappé d'une immunité, comme si de lui-même il disait ce que des idéologues ou des islamistes lui font dire. Mais la charia, c'est tout simplement la jurisprudence construite sur des siècles. Un bon parallèle équivalent serait la Commonwealth anglaise, c'est-à-dire cette loi non écrite qui, dans les tribunaux anglais depuis le XIIIe siècle, se construit, s'affine, s'écluse au gré des problèmes qui se posent. La charia est tout sauf un concept non historique. La charia est tout sauf un concept dont tout serait déjà clos et dit dans le texte sacré. La charia ne s'est construite que progressivement par les quatre grandes écoles juridiques qui ont vu le jour au 8e, 9e siècle. Vous savez, on peut dire que la loi musulmane a mis 4 siècles à se construire, et elle s'est construite dans une diversité, elle s'est construite dans des orientations tout à fait distinctes, mais vous savez, véritablement, la charia, et là je parle, si vous voulez, par rapport au texte, aux écoles juridiques et à l'histoire, c'est quelque chose qui a été vivant, changeant, transformé et qui n'a jamais été un code. D'ailleurs, moi, je dis toujours, mais donnez-moi le code dans le Coran, donnez-moi le code de cette charia. Mais bon, que voulez-vous, le mal est fait. On a l'impression comme s'il y avait une affinité de vue entre des journalistes qui disent à hauteur de journée la charia est de nouveau appliquée et les fondamentalistes qui brandissent ce mot pour effectivement faire taire toutes les divergences dont il est porteur.
Alors, pour finir, de quoi Averroès est-il aujourd'hui le nom ? C'est un pionnier pour le monde arabe, c'est un père spirituel pour l'Europe, mais est-ce qu'il ne faut pas dépasser ce simple cadre géographique contraignant ? Jean-Baptiste Brenet.
Attention à ne pas accorder de valeur à Averroès uniquement sous l'angle du bénéfice européen. Uniquement sous l'angle de l'Europe. Comme si Averroès ne méritait d'exister et d'être rappelé que par le rôle qu'il aurait joué dans le processus d'acculturation de l'Europe. Il faut être très sensible à ça. Ça n'est pas qu'un passeur, ça n'est pas qu'un Européen. C'est un penseur arabe, il relève de plusieurs histoires, mais attention à ne pas écraser ces autres histoires par l'histoire européenne. Je crois qu'il faut dépasser l'Europe. Et je crois que ce qu'il faut viser, c'est à réintégrer Averroès et plus largement la pensée arabe dans l'histoire mondiale de la rationalité. L'histoire mondiale et commune de la rationalité. Et dans cette histoire mondiale de la rationalité, Averroès, qui joue un rôle crucial dans ce que fut, dans ce qu'aura été le processus d'acculturation de l'Europe, puisque sans lui, la scolastique n'aurait pas accédé à Aristote comme elle a pu le faire, dans cette histoire, Averroès doit apparaître comme une sorte de rationaliste intégral. Même s'il n'est pas l'homme négateur de la foi, aucunement. Je répète qu'il est absolument central pour Averroès de savoir articuler philosophie et religion, rationalité et révélation coranique, puisque sans la révélation, la société n'existe pas. Donc, en dépit de cela, et contre un certain nombre de clichés qui circulent, il faut faire entendre l'idée que Averroès n'est pas le nom de la rationalité européenne, il est un nom de la rationalité mondiale. J'aimerais plutôt faire entendre ça.
Merci à Jean-Baptiste Brunet et à Ali Ben Makhlouf, auteurs tous deux de livres importants sur Averroès. À la prise de son Thibaut Nassim Ben et à la maison de la radio et de la musique Pierre-Yves Derolin. Frédéric Martin et Franck Olivard, les agents d'Intelligence Service. Et la réalisation, Audrey Ripouille.